l'oiseau blanc, Philippe Trousselard, bonjour. L'oiseau blanc, avec aujourd'hui
Farid Zizi.
Pour ceux qui ont écouté la première émission de L'Oiseau Blanc, ils se rappellent certainement que j'y ai abordé cette problématique de la croissance du trafic aérien mondial à laquelle nous sommes désormais confrontés. Et quand on parle aviation et mondiale, il est impossible de ne pas faire référence à cette organisation qu'est celle de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, l'OACI, dont le siège est à Montréal, au Canada, au Québec, préciserai mes amis québécois. Et sur le site web de la représentation permanente de la France auprès de cette Organisation de l'aviation civile internationale, vous avez, chères auditrices, chers auditeurs, un onglet particulier, l'onglet « La France à l'OACI ». Celui-ci vous permet d'accéder à l'histoire de la France, de 1945 à nos jours, dans cette importante organisation internationale qu'est l'OACI. Dans les quelques lignes, une quinzaine, de cette histoire sont référencés uniquement six noms de Français, et parmi ceux-ci, nous avons celui de Farid Zizi, que nous recevons dans l'Oiseau Blanc, aujourd'hui à Toulouse, mais qui travaillait de manière permanente, encore il y a peu, à Montréal. Farid, cette organisation de l'aviation civile internationale que vous connaissez si bien, nous allons essayer de la découvrir avec vous, sans oublier, j'en suis convaincu, les aspects humains, car il me semble qu'ils ont pour vous leur importance. Alors Farid, déjà pour mieux vous connaître, puisque je parlais de l'humain, quel chemin personnel et professionnel avez-vous emprunté pour arriver à l'OACI ?
Le chemin professionnel, moi je suis étranger par construction. Ma mère est allemande, mon père est algérien, et j'ai toujours pensé international. Quand je me suis posé la question de ce que j'allais faire dans la vie, j'avais deux envies. J'ai découvert assez tardivement dans mes études une envie pour l'aviation, mais assez vite, il était clair pour moi qu'elle devait être civile et assez clair aussi menée à l'international. Et ce que j'aime dans l'OACI, mais on y reviendra après, c'est que l'OACI, c'est un projet de paix, c'est un projet de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où on utilise l'aviation pour faire parler les peuples, pour les faire communiquer entre eux, pour construire un projet d'un monde, on va dire, peut-être idéalisé à l'époque. Nous pouvons nous poser la question de savoir ce qu'il est aujourd'hui. Mais en tous les cas, c'est un projet civil et qui me convenait tout à fait bien. Donc j'ai pensé aviation, j'ai pensé civil, je suis rentré dans l'aviation civile, c'est assez simple. Ensuite, la première question, c'était dans l'aviation civile, de quoi on s'occupe ? J'avais le choix entre aller vers le contrôle aérien et aller vers l'avion. J'ai fini par aller vers le contrôle aérien tout en ayant appris à piloter. Et je voulais avoir un toucher opérationnel, je suis donc allé dans un centre de contrôle. Puis progressivement, j'ai évolué vers les systèmes. J'ai toujours pensé que les compétences étaient essentielles. Donc, je me suis occupé de formation des contrôleurs à l'ENAC. Et puis, j'ai toujours gardé cette fibre internationale. Et de fil en aiguille, je suis arrivé à l'OACI.
Alors, l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile, cette belle école locale, vous y aviez quelles fonctions exactement ?
Alors, j'ai occupé deux fonctions successives à l'ENAC. La première, dans le droit fil de ce que j'avais fait antérieurement, c'est j'étais chef du département circulation aérienne de l'époque, donc la formation des contrôleurs et tout ce qui s'y rapporte. Et j'ai à l'époque construit le bloc simulateur de l'ENAC, et donc les simulateurs de l'ENAC d'aujourd'hui, je pense pouvoir dire que j'y ai largement contribué. Et ensuite, j'ai un peu étendu mon champ et j'avoue que ça m'a rendu très heureux de l'étendre. Je suis devenu directeur des études et de la recherche. Et là, je traitais de l'ensemble des formations et de l'ensemble du domaine aviation civile.
Une question que je pose de manière régulière à mes interlocuteurs, Je considère qu'il n'y a pas de carrière dans l'aéronautique, dans l'aviation sans passion, quelque part. Quel était votre déclic, même si celui-ci a été tardif, si je le comprends bien ?
Alors en fait, j'ai deux déclics. Un premier, c'est le choix d'aller vers l'aviation civile. Et immédiatement après, et ça c'était une excellente stratégie de l'ENAC de l'époque, c'est qu'on commençait notre formation par le stage de pilotage. Et donc on apprenait le plaisir de l'aviation pour commencer. Et bon, aujourd'hui on est en Occitanie, voler au-dessus de l'Occitanie, c'est un réel plaisir, c'est énorme. J'ai eu l'occasion de voler dans d'autres régions, mais ici on a la météo, on a la nature qui est belle, on a toutes les joies de l'aviation, et j'ai compris en faisant mon stage pourquoi autant d'aviation avait eu lieu dans cette région.
Merci de faire référence à l'Occitanie, hein, qui est au cœur de notre mission sur cette radio. Je vais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, quant au caractère que je qualifierais peut-être caractère humain de cette mission. On revient sur l'organisation de l'aviation civile internationale. Il me semble que lorsque l'OACI a été créée, donc en référence à la Convention de Chicago, et je vous proposerai de revenir sur ce sujet, il y avait des attendus très précis en fait sur ce rôle de l'humain, des peuples, respect des peuples par rapport à cette aviation qui partait après la guerre, en particulier après 1944.
Alors, c'est très très clair que, bon, malheureusement, les guerres permettent souvent quelques avancées techniques. La Deuxième Guerre mondiale a clairement montré que l'aviation, ça marchait. Alors, et le projet de 1944, c'est que ça marche au service de la société civile et que ça marche pour transporter des personnes. Et avec un projet de transport de masse, là où l'aviation, avant la guerre, était d'abord une aventure pour quelques privilégiés quand ils étaient passagers. Bon, en France, on parle beaucoup de l'aéropostale, mais pas beaucoup de passagers vivants dans l'aéropostale, c'est plutôt des colis et des lettres. Et donc, voilà, le projet, c'est celui-là, c'est le transport de passagers. Et si on lit le préambule de la Convention de Chicago, c'est très clair qu'il y a une volonté de paix d'interconnexion des peuples. C'est clairement le fondement. Et la Convention de Chicago ne traite pas de l'aviation militaire. Elle exclut ce qu'on appelle les avions d'État. Elle parle essentiellement du transport aérien civil, qu'il s'agisse de fret ou de passagers.
Je crois même que dans les attendus de cette convention, il est dit quelque part que, en fait, on recherche à éviter une nouvelle guerre.
Clairement, ça n'est pas dit exactement comme ça, mais le projet, c'est la consolidation de la société civile et de la paix, oui.
Et l'OACI est rattaché à quel organisme mondial particulier ?
Alors ça, c'est toujours intéressant, parce que quand on va à l'OACI, on comprend qu'il n'y a pas de gouvernement du monde. Et on comprend que, en fait, moi, parfois, quand je présente l'OACI à des amis qui ne connaissent pas, je dis c'est une association loi 1901, mais les membres ne sont pas des personnes, ce sont des États. Et alors, l'OACI est aujourd'hui rattachée à l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, mais l'OACI, dans sa temporalité, précède l'ONU. Hein, l'ONU, c'est 1945, l'OACI, c'est 1944. Et donc, l'OACI a ses termes propres. Elle avait, j'ai plus l'acronyme exactement en tête, mais elle avait un prédécesseur créé dans les années post-Première Guerre mondiale, qui avait des velléités de développer l'aviation. Mais aujourd'hui, l'OACI fonctionne beaucoup dans le système onusien. Elle en a hérité un certain nombre de pratiques. Elle a néanmoins son propre mode de fonctionnement, un certain nombre d'institutions qui lui sont tout à fait propres. Et elle raisonne par rapport à son domaine particulier. Elle n'est pas nécessairement et obligatoirement dans les grandes politiques onusiennes.
Et bon, vous disiez en fait que l'OACI a précédé la mise en place de l'ONU. On peut dire que, on ne va pas en parler plus avant, mais l'Organisation mondiale de la santé, on peut un peu comparer l'OACI à l'Organisation mondiale de la santé qui dépend de l'ONU et qui est en fait aussi, qui a beaucoup de références par rapport à cette mission humaine, les peuples.
Oui. Alors, on peut la comparer à l'Organisation mondiale de la santé, effectivement, sur le caractère humain. On peut la comparer sur le caractère technique à l'UIT, à l'Union internationale des télécommunications. Il est très clair que... Et d'ailleurs, vous parliez d'Organisation mondiale de la santé. L'OACI, dans son travail et au travers de l'annexe 9, facilitation et CAPSCA, et le programme CAPSCA, est un moyen de l'Organisation mondiale de la santé, ou un moyen où, en tout cas, travaille la main dans la main, par exemple, sur la propagation des épidémies mondiales. On a connu, dans les années qui ont précédé, Ebola, le SRAS et d'autres choses. Et nous avons un certain nombre de procédures, de règlements qui sont coordonnés avec l'Organisation mondiale de la santé. Donc effectivement, on le voit bien que sous le chapeau général de l'ONU, on a une sorte de volonté de créer un cadre... on va l'appeler vivable ou un cadre de vie pour la société mondiale. Et l'OACI prend une forte part dans ce développement.
Je crois que nous venons de tracer la mission de l'OACI et sa fonction, encore une fois, à caractère mondial. Vous disiez précédemment, vous compariez en fait l'OACI, et on parlait d'une association loi 1901. Et ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est que dans une loi 1901, tous les membres sont égaux. Est-ce que les États à l'OACI sont tous égaux, en principe ?
Ça, c'est une question difficile. Je peux répondre oui et je peux répondre non. Alors, pourquoi je peux répondre oui ? Parce qu'en termes de droit de vote, tous les pays sont égaux. Ce qui fait dire à certains qui ont quand même une forte contribution et une forte part que quand même, ce n'est pas tout à fait équitable, cette chose-là, puisqu'on peut se retrouver avec beaucoup de pays très peu aéronautisés ayant un poids non négligeable dans la prise de décision. A contrario, la contribution des pays à l'OACI est proportion de leur poids économique et de leur poids aéronautique. Et donc, évidemment, il y a des pays forts. J'ai découvert... je savais que la France était un grand pays, mais j'ai découvert à l'OACI que la France était un très grand pays, et en particulier un des pays du monde qui a l'ensemble des savoir-faire aéronautiques. Et il y en a très peu. Les États-Unis, bien évidemment... La Russie aujourd'hui, l'URSS en avait plus que la Russie d'aujourd'hui, mais ça reste un très grand pays. Et évidemment, la Chine qui monte en puissance et dans l'ensemble des domaines. Mais des pays capables de construire des avions, ayant un grand rôle en contrôle aérien, capables de former, capables d'assumer l'ensemble du système aéronautique, il n'y en a finalement pas tant que ça sur la planète.
Et je crois d'ailleurs que la contribution de la France en tant qu'expert sur place à Montréal et plus globalement sur le plan financement est loin d'être négligeable à l'OACI.
Alors, je n'ai pas révisé avant de venir, mais la France, je crois, est le sixième pays contributeur au budget de l'OACI. Les États-Unis étant encore les premiers contributeurs, et la Chine étant passée en deuxième position. Mais la Chine a beaucoup progressé ces dernières années. Et ce qui est intéressant dans la contribution de la France, c'est effectivement son poids de contribution, mais surtout sa capacité de contribuer intellectuellement et pratiquement à l'ensemble des discussions. Et peut-être comme un pays pas nécessairement aligné toujours. C'est-à-dire un pays qui a sa propre pensée, son propre équilibre et ses propres idées. Et ça, ça apporte toujours au débat mondial.
Alors, nous allons... j'aimerais bien, Monsieur Farid Zizi, que vous présentiez vos fonctions à l'OACI, que vous nous confirmiez combien d'années vous y avez passé et quelles ont été vos fonctions, encore une fois importantes et qui sont tracées dans l'histoire de la France au niveau de l'OACI, afin de nous permettre d'avoir une vue globale de l'organisation. Et puis après, nous reviendrons sur les grandes missions actuelles.
Alors, moi, je suis arrivé à l'OACI j'ai pris le dernier avion de Paris le jour de l'éruption du volcan Eyjafjallajökull.
Vous prenez souvent l'avion parce que je crois que vous étiez à Montréal lundi, mardi,
mercredi,
enfin, les trois des derniers jours, et puis hier à Bruxelles, voilà. Et merci d'être là aujourd'hui.
Ben oui, cette semaine est assez intéressante puisque, en fait, lundi, mardi, mercredi, j'étais dans un groupe de travail mondial, jeudi dans un groupe de travail européen, et aujourd'hui on est en France pour travailler. Et c'est bien ces trois dimensions qui sont toujours présentes dans la vie de l'aviation au quotidien et dans ma vie à moi aussi personnellement. Alors, mes fonctions à l'OACI. Je suis arrivé à l'OACI pour occuper le poste de premier adjoint à la représentation française de l'OACI, à l'époque adjoint de Michel Wackenheim, qui occupait le poste d'ambassadeur et de représentant permanent de la France au Conseil de l'OACI. Et le premier adjoint, traditionnellement, est également le membre de la commission navigation aérienne, la dite commission navigation aérienne dont je définirai les fonctions dans quelques minutes. Et donc mon premier rôle, c'était de venir en appui de l'ambassadeur. Traditionnellement, le premier adjoint porte les questions techniques et le deuxième adjoint porte les questions un peu plus économiques, un peu plus de sûreté, un peu plus d'environnement. Et nous sommes restés dans ce rôle traditionnel. Vous avez la délégation française à l'OACI, c'est 6 personnes.
Quand on parle de l'OACI, donc c'est Montréal.
C'est Montréal, effectivement. Ouais. C'est une délégation permanente au siège. Ce qui est une des caractéristiques de l'OACI, puisque l'OACI a des délégations permanentes et a un conseil permanent. Et donc l'ambassadeur siège toute l'année, de façon très régulière. Alors, en tant que commissaire navigation aérienne, en tant que premier adjoint, je représentais la France. En tant que commissaire navigation aérienne, j'étais astreint dans mes fonctions à avoir une vision indépendante et à contribuer à l'encadrement, au développement des standards techniques, et avec une obligation de non-partisanerie, je vais le dire comme ça. C'est-à-dire qu'il est compris par le système que nous portons notre expérience, nous portons notre passé, nous portons notre compréhension, et évidemment avec un angle de vue qui est le nôtre, mais nous devons observer, nous assumons une responsabilité de développement équilibré du monde et donc pas obligatoirement de partisanerie. Et la première chose qui m'est arrivée, qui est assez intéressante, c'est qu'après avoir été nommé, donc je suis arrivé avec mes valises le 15 avril, et quelques mois après...
Donc de quelle année ?
De 2010, et quelques mois après avaient lieu les élections à la commission navigation aérienne. Ma femme ne m'avait pas rejoint et je l'appelle au téléphone et là, elle me pose une question. Et si tu n'es pas élu ? Là, je ne savais pas quoi répondre. Mais effectivement, l'hypothèse de ne pas être élu est plausible, c'est arrivé. Et parce que, en fait, l'élection à la commission navigation aérienne se fait sur, sur l'expertise technique, le profil technique de l'intéressé, et pas nécessairement au travers de sa nomination par un état donné.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours, comme vous le disiez, une indépendance dans cette mission mondiale.
Oui. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est que la commission navigation aérienne ? C'est une sorte de comité technique. C'est une sorte de comité technique du Conseil de l'OACI, c'est-à-dire que la Commission vient soutenir le Conseil dans ses prises de décisions techniques, et la Commission gère dans ses propositions de standards, elle gère 17 annexes parmi les 19 de l'OACI. Alors je vais peut-être rapidement dire ce que c'est qu'une annexe. En fait, très bêtement, le système de l'OACI, ben vous avez une convention internationale qui est la Convention de Chicago, qui fonde les engagements et les obligations des États par rapport à l'aviation civile. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a un texte de haut niveau ? Eh ben, on lui annexe des documents. Et en fait, ça fonctionne comme ça, y compris pour l'OACI. L'ensemble des obligations sont ensuite traitées dans leur détail au travers des annexes de l'OACI qui vont de 1 à 19, la première étant sur les compétences des opérateurs, deuxième sur l'espace aérien, le troisième sur la météo, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière qui est l'annexe 19 et qui parle de gestion de la sécurité dans l'aviation. Et ensuite, vous dérivez tout ce système qui s'impose aux États au travers de l'article 37 et de l'article 38, dans lequel les États s'engagent à respecter les standards développés par l'OACI.
Je vous interromps, quand vous parlez de standards, on peut parler de normes ?
Alors, quand on parle de standards à l'OACI, vous avez raison de poser la question, parce que le mot standard, tout le monde ne le comprend pas de la même manière. Quand on parle de standards à l'OACI, on parle de règles qui s'imposent aux États. Et les États, après, dans leur propre système législatif, doivent transformer ces règles. Et après, vous avez en soutien, quand vous parlez d'une norme AFNOR en France, on va parler là plutôt d'une, en termes OACIens, on parlera d'une spécification technique. Alors que le standard, c'est plutôt quelque chose qui vient dans la loi au niveau d'un pays. Voilà. Alors,
Vous auriez un exemple précis pour éclairer un peu nos auditrices, auditeurs de qu'est-ce qu'un standard est ?
Par exemple, un standard, alors ça peut être quelque chose de très technique, comme la largeur des pistes ou des aéroports, le marquage des pistes, tout simplement, pour que tout le monde ait les mêmes systèmes de référencement sur les aéroports qui sont internationaux. Et ça peut être quelque chose de beaucoup moins technique ou plus organisationnel, comme l'obligation pour les États d'avoir un plan de sécurité de l'aviation au niveau de l'État et de le gérer et d'obliger les opérateurs aériens, qu'ils soient aéroportuaires, contrôle aérien ou compagnies aériennes, d'avoir des systèmes de gestion de la sécurité chacun et de les auditer.
En fait, ce qu'on recherche, c'est d'avoir un monde uniforme, qui a les mêmes références.
Pas obligatoirement uniforme, mais un monde dans lequel on a traité suffisamment et de façon suffisamment homogène les questions d'interopérabilité et de sécurité. Alors, la façon de le dire que j'ai, c'est simplement qu'un pilote, quand il décolle d'un endroit du monde, doit à peu près savoir raisonnablement qu'il va pouvoir se poser de l'autre côté du monde. Et pour ça, il a besoin de comprendre dans quel environnement il va aller. Et en particulier, le système OACIen définit l'environnement par défaut dans lequel il va être. Et un pays garde sa souveraineté et a la possibilité de ne pas respecter un standard, mais à ce moment-là, il doit notifier une différence. Et quand il notifie une différence, celle-ci est portée dans les instruments d'information aéronautique, et le pilote va donc savoir en quoi l'environnement dans lequel il vient est différent de l'environnement par défaut qui est celui de l'OACI.
J'ai une question qui me vient à l'esprit, parce qu'en fait, tout ça doit être diffusé au niveau mondial. J'entends diffusion papier, voire informatique. Alors, il y a combien de langues qui sont officielles ?
Alors, l'OACI fonctionne avec 6 langues officielles. La langue aéronautique par excellence, qui est l'anglais, le français, l'espagnol, le russe, l'arabe et le chinois. C'est d'ailleurs très intéressant d'opérer dans ces 6 langues. Je ne prétends pas être capable d'opérer dans ces 6 langues, même si j'en ai quelques-unes à mon actif. Typiquement, par exemple, dans nos débats un peu techniques, de temps en temps, pour un même mot, vous avez dans des façons très très différentes de le décliner. Par exemple, le mot « responsabilité », qui est un mot clé quand on vient définir les choses, eh bien, en anglais, vous aurez « liability, accountability, responsibility ». Donc l'un porte la culpabilité éventuelle, l'autre porte le rendre compte, le fait d'être responsable devant, et l'autre porte la question de la responsabilité de l'activité. Et en français, on n'en a que deux. On n'en a qu'un, c'est responsabilité. En espagnol, il y en a deux. Donc ça fait des choses assez intéressantes.
Alors, puisqu'on parle de choses intéressantes, nous allons aussi faire une petite pause musicale, Farid. Que nous proposez-vous d'écouter et pourquoi ?
Alors, j'ai proposé d'écouter « In the Road Jack » de Ray Charles. Alors, le pourquoi, d'abord parce que c'est une musique que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça. À la fois parce qu'il y a une forme de nostalgie dans cette musique et puis aussi un rythme joyeux et entraînant. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai proposé.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say? Treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Alors, je vais profiter, Farid, de cette chanson, parce que à ce pauvre Jack, on lui demande de quitter le camp et de ne plus jamais revenir. Et à un moment donné, il répond : ce n'est pas une façon de me traiter parce que je retomberai sur mes pieds un jour. Alors, on va quitter un petit peu la discussion. Et vous, Farid, vous retombez toujours sur vos pieds ? C'est peut-être pas... l'objectif de la chanson, non?
Non. Moi, je préfère « What you say, I didn't understand ». Parce que c'est quand même une question qu'on se pose souvent quand on discute avec nos collègues à l'OSCI. Mais non, je ne retombe pas toujours sur mes pieds, mais j'ai suffisamment d'intérêt pour ce que je fais pour... toujours y trouver passion et amusement. Passer un certain niveau de confort, il faut s'amuser. Et j'ai toujours trouvé ça dans mes fonctions.
Oui, je crois que vous faites partie de ceux qui s'amusent beaucoup en travaillant. Et je crois qu'en effet, c'est un beau fil conducteur. Alors, je vais profiter de cela pour revenir sur le sujet sur lequel nous étions avant. En fait, cette présidence de la commission de la navigation aérienne, vous l'avez exercée combien de temps? Et après, nous passerons sur. Je vous proposerai de passer sur des exemples un peu plus concrets des missions que vous avez eues à gérer.
Alors, j'ai d'abord été simple commissaire pendant 3 ans et demi à peu près. C'est ça. Enfin, 4 ans. Et ensuite, j'ai été élu président de la commission de navigation aérienne. Et quand on dit élu président de la commission de navigation aérienne, on est élu non pas par la commission de navigation aérienne elle-même, c'est-à-dire ses pairs, mais on est élu par le conseil de l'OACI, donc par les États. Et donc j'ai ensuite été élu successivement 3 fois pour des mandats d'un an successifs. Donc j'ai été 3 ans président de la commission de navigation aérienne.
Alors vous disiez précédemment que cette commission de la navigation aérienne est principalement reliée aux aspects techniques. Et quand on parle technique au niveau de la mission de l'aéronautique, c'est quand même un domaine extrêmement important. Pourriez-vous nous donner des exemples d'enjeux que vous avez eu à gérer? Je suppose bien évidemment à travers pas mal de réunions.
Alors, les enjeux... Alors, bon, typiquement, l'OACI s'appuie sur de nombreux experts et des groupes d'experts. Les enjeux techniques, on n'en décide pas a priori. Il y a des enjeux, bien sûr, évidents. Faire en sorte que, quand un avion appelle, les contrôleurs l'entendent. C'est très bête, mais il faut pour ça qu'il y ait des fréquences, que les systèmes soient compatibles. Les radars, c'est relativement... Tout le monde saura que les contrôleurs voient les avions au radar, mais pour ça, il faut que l'avion envoie un signal qui soit compréhensible par le radar et que le radar soit suffisamment standardisé. Donc ça fait partie des choses techniques. Dans les choses que j'ai eu à gérer, je vais citer 3 exemples qui ne sont pas tout à fait de même nature. Un premier, c'est la création de l'annexe 19. Et l'annexe 19, vient dire aux États, organisez-vous sur l'ensemble du système d'aviation pour améliorer la sécurité. Une des difficultés que nous avons dans l'aviation, c'est que nous avons d'ores et déjà une très bonne sécurité. Et nous l'avons progressivement construite au travers, et ça c'est dans les gènes de l'OACI dès le départ, au travers de ce mécanisme de standardisation. Et maintenant, pour atteindre des niveaux supérieurs, et il nous faut atteindre des niveaux supérieurs en matière de sécurité, il faut approcher le système dans l'ensemble de ses composantes et de façon cohérente. Et donc ça, c'est l'objet de l'annexe 19. Donc il a fallu traiter de ça. L'annexe 19 traite à la fois de ce qu'on appelle la culture juste, c'est-à-dire que n'importe quel opérateur, quand il pressent dans son expertise, ou même qu'il a fait une erreur, qu'il faut remonter ça à la connaissance des autres et ne pas cacher l'information s'il a fait une erreur, l'annexe 19 vient le protéger, si je puis dire, en toute transparence, de telle façon que, en commun, nous gagnions un niveau de compréhension en termes de sécurité.
C'est oser avouer l'erreur qu'on a faite, voilà. et être a priori pardonné, parce qu'en fait, on a fait part de cette erreur qui peut être utilisée au bénéfice de cette sécurité.
L'erreur est admissible. Ne pas la rendre transparente est une faute. C'est ma façon de le dire. Et l'erreur n'est pas nécessairement une faute. Et il faut absolument que interviennent dans les systèmes juridiques des États, interviennent dans les systèmes même organisationnels des États, que cette notion soit tout le temps présente, de telle façon que le système lui-même ait la capacité d'apprendre en matière de sécurité.
Ce qui est quand même une notion extrêmement intéressante et... Quand on compare, par exemple, dans notre monde, dans la société, c'est vrai que ce n'est pas facile d'avouer l'erreur qu'on a faite.
Ce n'est pas facile, très clairement. Et très clairement, dans un monde multiculturel qui est celui de l'OACI, ça ne se passe pas obligatoirement aussi facilement dans toutes les cultures ou dans tous les systèmes politiques ou dans tous les systèmes sociaux. Et donc c'est une gageure. Mais c'est à ce prix-là qu'on gagnera aujourd'hui. On est quand même à des niveaux de sécurité qui avoisinent l'accident tous les 10 millions de vols. On a un taux de croissance du trafic au niveau du monde d'environ 5 à 6% de croissance par an. Si on suppose que le système est linéaire, si on veut rester dans aussi peu d'accidents qu'aujourd'hui, bon, l'année 2017 a été formidable, puisque c'est zéro, mais il nous faut gagner des puissances de 10 encore, et ça, on le fera en allant chercher le système dans tous ses bouts. Et c'est à ça que ça sert, l'annexe 19.
Alors moi, j'ai une question à vous poser, puisqu'on parle de sécurité. Bon, j'ai mon smartphone, je me promène en ville, je vais assez loin, et puis on est suivi partout. On le voit d'ailleurs dans certaines recherches aujourd'hui, on est capable de nous tracer. Alors, désolé, mais je vais revenir sur des accidents qui sont connus, le Malaysian Airlines par exemple, le MH370. On a eu par exemple celui de l'Air France 447 de Rio-Paris. Alors, comment peut-on perdre des avions, ne pas savoir où ils se situent quand on voit qu'avec nos smartphones on est suivi? Et qu'est-ce qui a été fait ces derniers temps sur le plan mondial et donc à l'OACI pour améliorer la situation?
Alors d'abord, je vais vous agresser.
Allez-y.
Parce que j'étais effectivement président de la commission navigation aérienne depuis 2 mois, quand nous avons perdu le MH370, cet avion qui a disparu et dont on ne sait pas ce qu'il est devenu. Et là, toutes les radios, télévisions se sont répandues en disant « Comment se fait-il qu'avec mon smartphone, on peut me suivre partout ?» La réalité, c'est quand même que si vous êtes dans la forêt québécoise, votre smartphone, vous pouvez l'oublier. Si vous êtes dans quelques zones de France, votre smartphone, vous pouvez l'oublier. Et qu'il est totalement faux qu'on peut vous suivre partout. Et donc ça, c'est un premier point. Après, la deuxième réalité, c'est que le monde, si vous regardez la planète, le monde est quand même pas composé de zones que densément peuplées, que densément équipées. Et si vous regardez la planète, il est plutôt composé de zones qu'on appellerait « remote » en anglais, isolées, des océans, des jungles, des tonnes de choses. Et dans ces endroits-là, les infrastructures sont faibles, sont pauvres, même si on peut penser qu'on a du satellitaire. Alors, on peut comparer à la fois l'accident de l'Air France 447 et le MH370. Il y a quand même une grosse différence entre les deux. C'est que sur l'accident de l'Air France 447, on a su très vite identifier l'endroit du crash et on a mis quand même 2 ans à le trouver. Le MH370, c'est beaucoup plus difficile puisqu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors, il y a quelques scénarios. Très clairement, à la suite du MH370, on était quand même très désemparés. Et Et le raisonnement qui nous a dirigé est assez simple, finalement. Si, le raisonnement est le suivant. Si on ne sait pas créer de l'information, si on ne sait pas avoir d'information après un crash, il faut donc en créer avant. Et donc, et c'est un raisonnement qu'on avait commencé à ébaucher après l'Air France 447, mais sur l'Air France 447, on avait surtout parlé d'enregistreurs déployables, de choses qui se produisent après le crash. Sur le MH370, et j'espère que nous ne perdrons plus d'avions grâce à ça, nous avons mis en place ce qu'on appelle un Global Aeronautical Distress Safety System, qui consiste simplement à dire que l'avion, avant d'avoir un accident, il est d'abord dans une phase d'exploitation normale, et là, il reporte sa position toutes les 15 minutes, quand il est au-dessus de l'Atlantique, ou dans des zones, enfin, au moins toutes les 15 minutes. Il y a des endroits où il reporte beaucoup plus que toutes les 15 minutes. S'il est en situation anormale, et situation anormale ne signifie pas détresse, on peut tout à fait être en décompression, être obligé de descendre dans des niveaux bas. À ce moment-là, c'est une recommandation, ce n'est pas une obligation. Les compagnies aériennes sont encouragées à reporter leur position toutes les minutes. Dès qu'on passe en situation de détresse, on reporte la position toutes les minutes par un moyen autonome et autonome des systèmes de l'avion. Pour la bonne et simple raison que le dysfonctionnement peut provenir de l'avion lui-même. Si le système est dépendant de l'avion, ben la position va elle-même potentiellement être perdue. Et après le crash, on a mis en œuvre et on a ouvert la possibilité d'avoir des enregistreurs déployables. Donc avec ça, normalement, la minute, c'est important. Qu'est-ce que c'est qu'une minute ? Une minute, c'est 6 nautiques. Une minute, c'est donc 13 à 14 kilomètres. Si vous avez une information toutes les minutes, vous savez tous les 6 nautiques ce qui s'est passé. Et si vous n'avez plus d'informations, vous pouvez supposer que c'est là qu'il faut aller chercher. Et si vous rajoutez dessus des enregistreurs déployables et des dispositifs de cette nature, normalement, vous ne mettrez pas 2 ans, comme ça a été le cas sur l'Air France 447, pour retrouver l'épave ou ce qu'on a besoin de retrouver.
Donc là, c'est un travail en tant que président de la Commission de la navigation aérienne. C'est une mission que vous avez lancée dans un groupe d'experts, finalement, ou pas ?
Oui. C'était le 8 mars 2014, le lendemain de la perte du MH370. On était tous très secoués. On s'est réunis, les quelques-uns de la commission, avec également le bureau de navigation aérienne de l'OACI. Et puis, dans ce qu'on appelle un brainstorming session, donc on s'est gratté la tête. Ensuite, au mois de mai, on a eu une conférence. Et puis, assez vite, je suis arrivé, moi, à ce raisonnement qui est simpliste, comme ceux que je peux faire en général, des différentes phases. Et à partir de là, on a commencé à ordonner le travail et on a fait travailler tous les experts des groupes des différents domaines dont on avait besoin pour faire ce Global Aeronautical Distress System, Safety System. Et vous avez maintenant une obligation qui s'active. Enfin, il y a un certain nombre d'obligations de report de position qui seront actives à partir de 2018. Donc, ce sont des textes qu'on a votés en 2016, actives à partir de 2018. Et à partir de 2021, ces balises autonomes existeront dans les avions.
Alors, c'est vrai que la critique est toujours facile et vous m'avez un peu répondu cela tout à l'heure, mais on voit quand même qu'une organisation comme l'OACI a su être réactive, j'oserais dire, grâce à vous peut-être. On peut être très réactif tout en étant dans une organisation mondiale.
Oui, on peut dire que l'organisation est lente. C'est vrai. Mais moi, si je mets 10 personnes dans un groupe, je suis sûr que ça va être plus lent que si j'en ai qu'une, si elle travaille bien. Il y a un proverbe qui dit que si on veut aller vite, on peut y aller tout seul, et si on veut aller bien, il faut y aller avec les autres. Mais c'est vrai pour l'OACI. Après, il y a un temps incompressible. On a créé, par exemple, cette obligation d'avoir de balises autonomes en 2021. L'équipement d'une population d'avions sur le monde, ça ne se fait pas en deux coups de cuillère à peau. Et donc ça, ce temps, il est relativement incompressible. Mais quand on arrive à travailler bien dans la compréhension des objectifs partagés et dans une certaine capacité de construire du consensus, on peut aller assez vite, oui.
Vous faisiez référence tout à l'heure à l'indépendance des experts qui interviennent dans les groupes en n'étant pas finalement les représentants de leur État. Cette indépendance est aussi un facilitateur de la rapidité.
Alors, oui, oui, mais en tant que tel, pas nécessairement. D'abord, personne n'est réellement indépendant, soyons honnêtes. Moi, je reste français. Et je reste de toute façon avec ma culture, de tout ce que j'ai appris, etc. Par contre, l'obligation d'indépendance, et ce qui n'est pas la même chose exactement que l'indépendance, est un très très bon principe. Puisque comme on n'a pas la possibilité de venir représenter des positions, on est obligé de revenir dans la discussion à la substance et au fond. Et sur la base du fond, on peut construire des consensus. Et moi, j'ai appris, en tout cas, ça fait partie de mes apprentissages de l'OACI, que ce n'est pas du tout la même chose de construire du consensus et de négocier des positions. Négocier des positions, c'est des notions de bloc à bloc avec des notions de puissance comparée. Et construire du consensus, c'est aller suffisamment dans le fond pour que chacun comprenne les objectifs et soit capable, en se comprenant, de construire une solution partagée. Et ce n'est pas la même chose. Et ce principe d'indépendance ou d'obligation d'indépendance, qui n'est pas l'indépendance, puisque à la limite, on suppose que chacun va porter sa propre réalité, donc ce n'est pas très grave, mais le principe de l'obligation d'indépendance aide à construire du consensus.
Alors, je vais revenir sur cette question de l'information, puisqu'en fait, tout à l'heure, vous parliez de l'échange d'informations entre l'avion et le sol. Bon, je ne vais pas revenir sur la question des accidents, mais il me vient cette notion qu'on nomme en anglais la cybersécurité. Comment fait-on aujourd'hui pour sécuriser ces échanges d'informations, et est-ce que c'est un point important dans une mission importante de l'OACI?
Alors, ça n'était pas jusqu'à maintenant une mission importante, ça le devient. De la même façon qu'avant 2001, soyons clairs, la sûreté n'était pas une mission principale de l'OACI. L'OACI a été construite sur une vision positive du monde, dans laquelle on n'était pas obligé de mettre de la cyberdéfense, de la superdéfense, de la sûreté, etc. Ce sont les événements qui nous y amènent. Et donc 2001, ben vous savez ce qui s'est passé. Et donc là, vous avez eu un développement très fort de la sûreté. Et depuis 2-3 ans, et avec une première résolution à la dernière assemblée de septembre 2016, la cybersécurité monte en puissance. Et évidemment, le risque cyber est un risque alors, qu'on ne peut pas qualifier d'important, puisque pour l'instant, il n'y a pas d'événement véritablement important sur l'aviation, mais l'aviation, dans son développement, c'est aussi dans tous les systèmes sont communicants. L'aviation est un système communicant par excellence, et communicant pas simplement dans ce qu'elle apporte, c'est-à-dire le transport, mais communicant par toutes ses infrastructures. Et donc, une défaillance ou une attaque cybersécurité pourrait fortement endommager l'ensemble du système, voire le bloquer. Et nous sommes un certain nombre à y travailler.
Alors, en fait, on voit à travers vos propos que doivent se définir des objectifs sur le plan mondial qui sont ensuite déclinés sur le plan national. Mais Comment fait-on pour décliner les objectifs sur le plan mondial, sur plusieurs années? Est-ce qu'il y a un principe particulier?
Alors, le principe particulier, c'est déjà d'avoir l'habitude de travailler ensemble. C'est l'existence même de l'organisation. Quand on regarde l'organisation physiquement, enfin le bâtiment à Montréal, le bâtiment c'est deux bâtiments, c'est un premier bâtiment dans lequel vous trouvez les personnes et les délégations et puis le secrétariat. Puis c'est un deuxième bâtiment qui est un bâtiment de réunionnite avec un hall d'assemblée, plein de salles de réunion, plein de... Voilà. Et donc l'objet c'est bien de se réunir, c'est de travailler ensemble. Après, comment on fait ? Bien, tous les trois ans, vous avez une assemblée dans laquelle vous allez définir les principales attentes et les principales décisions que les pays prennent et résolutions pour que l'OACI travaille dans le triennat qui suit. Et depuis quelques années, nous avons construit un système de plans stratégiques. Vous avez un plan global pour la navigation aérienne qui vient définir à l'horizon de 15 ans le plan de modernisation de la navigation aérienne. Alors, navigation aérienne, au sens OACI du terme, c'est tout de l'aéroport à l'avion. Hein. Vous en avez un sur l'amélioration de la sécurité. Même si elle est très bonne, il nous faut être en amélioration. Et vous en avez un qui est en train de voir le jour sur la sûreté. Et donc ces plans viennent diriger l'action de l'OACI sur une échelle du court, moyen, long terme, et donc donnent une direction stratégique à l'OACI.
Je crois que vous étiez à Montréal ces derniers jours sur cette question-là.
Sur la mise à jour du plan navigation aérienne, oui.
Alors, est-ce que vous pourriez donner à nos auditrices, auditeurs, un exemple particulier, précis, sur ce qui va arriver, par exemple, dans un an, deux ans? Qu'est-ce qui peut changer d'un point de vue pratique qui a été défini dans ce plan?
Alors, dans un an, deux ans, peut-être un peu difficile à dire, parce que la réalité de chacun dans le monde... Le plan à 15 ans ne dit pas ce que chaque pays va faire dans un an. Mais par contre, très clairement, aujourd'hui, on est en train de passer d'un système de gestion de l'aviation, je vais le dire comme ça, où d'abord vous êtes dans un aéroport, après vous montez... Prenez votre avion, vous êtes dans le ciel, vous êtes contrôlé, les contrôleurs aériens travaillent secteur après secteur à faire en sorte que il n'y ait pas de collision, vous soyez correctement séparés des autres vols et des autres risques potentiels. Donc vous protège dans dans ce segment d'espace qu'ils appellent un secteur. Et ensuite, vous allez vous poser de l'autre côté du monde et c'est pareil jusqu'à l'aéroport. Demain, vous planifierez votre trajectoire d'entrée. Elle sera un contrat à l'ensemble du système, et du système pas simplement national, mais mondial, puisque votre trajectoire part d'un pays et elle arrive dans un autre la plupart du temps. Et sur cette trajectoire, en fonction des performances qu'on attendues, notamment par exemple sur la météo, le cockpit recevra la météo du point où il est censé être 10 minutes plus tard, il la recevra rafraîchie et à jour, là où aujourd'hui il la prend avant de partir. Et donc évidemment, ça permettra d'optimiser, ça permettra aussi de mieux décider en cas de difficulté, par exemple un événement météo ou des retards ou un espace aérien ou simplement un avion qui a mis une roue dans l'herbe et puis qui bloque une piste. C'est des petites choses comme ça qui peuvent vous bloquer un aéroport. Voilà, on arrivera à mieux gérer l'ensemble de votre trajectoire et normalement avoir une meilleure performance, sachant qu'on est toujours dans un compromis, vous le vivez sur la rocade tous les jours. Hein. Dès qu'un système de transport est performant, plein de gens l'utilisent, le densifient, le saturent et ils perdent sa performance en même temps. Donc on est bien dans une gestion de flux, mais le système s'améliore en permanence.
Alors vous venez d'utiliser le mot trajectoire que j'aime beaucoup. Et pour, dans les quelques minutes qu'il nous reste, qui dit trajectoire, dit relier des pays à un pays à un autre pays. Aujourd'hui, dans le monde, quels sont les pays émergents? Alors certes, on connaît certains pays émergents, mais point de vue aviation, navigation aérienne, les enjeux se situent où pour demain?
Alors très clairement, oui, il faut bien différencier la notion politique du pays émergent de la notion technique, même si certains jouent des deux. Mais il est très très intéressant, nous Français, on n'a pas l'habitude de regarder le monde, on a l'habitude de regarder le monde centré sur la France et le méridien de Greenwich. J'ai vu plusieurs fois des photos du monde et du trafic aérien mondial centré sur l'Asie. Très clairement, la croissance est là aujourd'hui et les enjeux sont là. Vous avez une croissance, vous aviez, alors c'est peut-être un peu en train de se tasser sur certains pays, mais vous avez des croissances pas loin des deux chiffres, donc pas loin des 10% sur certains pays. Et je peux vous dire qu'une infrastructure de transport qui croît à 10% par an, c'est lourd comme évolution. Ces pays-là sont en plus pas obligatoirement toujours dans des notions d'espace aérien très flexible. Donc l'espace aérien est relativement contraint. Et donc très clairement, les enjeux sont là. Pékin, par exemple, l'aéroport de Pékin est maintenant au deuxième rang mondial. Il est passé en 20 ans du 20e au deuxième rang mondial. Et ils sont en train de construire un deuxième aéroport à Pékin. Alors pour ceux qui sont un peu connaisseurs de l'aviation civile française, la coexistence de Orly et Roissy dans la TMA Paris, c'est pas obligatoirement quelque chose de simple à gérer. Ben vous en prenez deux du premier niveau mondial et vous mettez ça dans la TMA Pékin et vous voyez que la complexité du trafic à gérer sera grande.
Ce que vous appelez TMA, c'est la région terminale.
Voilà, la région terminale de l'aéroport.
Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on peut construire aujourd'hui des aéroports en Chine, mais c'est beaucoup plus difficile de les construire en France ou ailleurs, d'ailleurs.
Bon, ça, c'est tout à fait vrai. Bon, alors, il y a peut-être une question sociétale à la clé. Il y a aussi un développement sociétal à la clé, c'est-à-dire que la Chine, qui est un pays continental, il y a encore un besoin de développement très très fort, là où la France est plutôt équipée. Il n'empêche qu'il faudra savoir rénover nos infrastructures dans le futur.
Alors Farid, nous arrivons à la fin de notre entretien. Vous avez quelques mots à nous rajouter que nous aurions oubliés?
Alors... Je ne sais pas si j'en ai ou j'en aurai beaucoup. Moi, je crois sincèrement qu'il faut maintenir à l'aviation son rôle de lien entre les peuples. Je crois aussi qu'il est absolument nécessaire de conserver, qu'on parle d'aviation, d'environnement ou autre, la capacité mondiale à traiter les problèmes en commun. Et je suis parfois inquiet de certaines évolutions. Et je pense sincèrement qu'il va y avoir des choses nouvelles qui vont se proposer à nous. Les drones en sont un. Mais les drones, ce qui est intéressant dans les drones, c'est pas... c'est un système automatisé, on peut avoir un rêve technologique, etc. Mais ce qui vient questionner l'ensemble du système dans ses équilibres. Et ils sont potentiellement porteurs d'évolutions très très fortes sur le système aéronautique à venir, parce que simplement, ce que j'évoquais en termes de gestion de trajectoire, il faudra savoir le faire à cause des drones, et peut-être que c'est une sorte de stimulant pour le reste du système.
Alors vous faites un lien avec les drones et on va y revenir, et absolument pas préparé en plus. Et je vais dire quelques mots sur notre prochaine émission. En tout cas, Monsieur Farid Zizi, merci beaucoup pour cet entretien. Je dirais que vous nous donnez envie vous nous donnez envie de nous ouvrir sur les aspects mondiaux, les enjeux mondiaux. C'est vrai que nous avons tendance souvent à nous focaliser sur, vous avez parlé de nombril tout à l'heure, certes il y a le nombril français, mais pourquoi pas européen ou d'autres. Encore merci pour votre approche, merci pour vos explications. Dans le prochain vol radiophonique de l'Oiseau Blanc, nous y accueillerons Catherine Ronfle-Nadeau, qui est responsable du programme Drone à la Direction Technique et de l'Innovation, la DTI, de la Direction des Services de la Navigation Aérienne. Donc nous voyons bien le lien que nous venons de faire avec les drones. Alors nous parlerons de ces petits oiseaux, parfois qui sont blancs, que sont les drones. C'était L'Oiseau Blanc, une émission de Philippe Trousselard, avec à la technique notre dévoué Jean-Loup Arzac. Vous pourrez retrouver cette émission ainsi que les précédentes déjà diffusées sur le site de la station ou sa page Facebook. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures.